Oui, on va parler un peu davantage de la France. Je rappelle que nous sommes avec le général Sidos, qui a été notamment l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018. Trump est-il bloqué? La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné ce jeudi, vous avez vu ça mon général, les attaques iraniennes sur les infrastructures civiles et énergétiques qui sont dans le Golfe. Et les mêmes ont fermement condamné le même jeudi les récentes actions de l'Iran. Mais ils ont décliné l'appel à l'aide qui avait été lancé mardi par le président américain pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Les appels à l'aide de Trump, pour l'instant, restent lettres mortes. Non, pas tout à fait. Alors, général Sidos,
oui,
où est-ce qu'on en est?
Effectivement, c'était l'information mardi.
Ouais.
Hier, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a eu un revirement. Il y a eu un revirement et six pays acceptent d'étudier la façon de protéger le trafic maritime, dont la France, bien sûr, les Anglais, les Italiens même, et trois autres. Il y a eu un revirement après un Conseil européen. Alors, il y a dû certainement y avoir des grosses négociations, quelque chose de mis en avance.
Ça change tous les jours.
Ouais. Ouais. Donc, ça change quand même, c'est très évolutif. Et, bon, tout simplement, effectivement, vous employez le terme de bloqué. Quand le président Trump est bloqué, bah, il débloque. Il faut savoir comment il débloque. Alors, comment il a débloqué? Est-ce que c'est lié à l'Ukraine? Est-ce que c'est lié à d'autres pressions économiques, etc.? Il a tapé du poing sur la table. Et alors, il a embarqué tout le monde dans cette guerre où personne n'est prévenu. Très bien. Des réticences, au début, effectivement. Et puis là, ben, il y a une évolution. Il y a une évolution. Et alors, il reproche à l'OTAN de ne pas intervenir. Il a reproché aux Japonais. Et puis là, la première ministre japonaise a été retournée, tout simplement. Il a convaincu. C'est un grand commercial. Donc, il fait de la géopolitique en débloquant les situations.
Et alors, la France semble camper, mais c'est peut-être un peu moins le cas depuis hier, alors du coup, sur une position défensive. Et je voulais vous demander ce que ça signifiait. Est-ce que Trump va réussir à faire bouger cette position défensive qui paraît quand même très sur le reculoir, quoi.
Alors, faut quand même préciser, oui, défensive, mais c'est pas négatif. Attention, faut pas, enfin, au niveau opérationnel. Le côté défensif, d'abord, vous savez qu'on a des accords de défense et des pays du Golfe. On a renforcé le parc aérien, je dirais, les avions, les rafales présents au Moyen-Orient. D'après un journaliste spécialisé question de défense, on en aurait 24, ce qui est énorme par rapport au parc aérien de Rafale. Et donc, ils sont surtout employés pour intercepter les drones. Alors, ils interceptent les drones avec des missiles Mika anti-aériens, donc ils coûtent très cher. Bon, alors il y a le vaste débat sur ce que ça coûte. Néanmoins, voilà, ça c'est une attitude défensive, c'est-à-dire vous avez des avions. Vous assumez les accords de défense qui ont été signés avec les Émirats arabes unis et donc vous protégez les Émirats arabes unis.
Ouais, cette zone-là.
Voilà, c'est ça de la défensive. Bon, et le pilote qui est dans l'avion et qui abat les drones, lui, il a un combat offensif. Vous voyez, bon, mais globalement, la politique est défensive. Bon, le président Macron emploie ce terme-là, d'abord parce que ça rassure, que si on parlait d'offensif, on imaginerait tout de suite une attaque sur le territoire iranien. Il ne faut pas non plus. Une attaque au sol, quelque part. Voire une coopération aérienne. Donc ça veut dire une attaque sur le territoire iranien. Là, on est dans une posture défensive. On serait également dans une posture défensive si on se lançait dans cette vaste mission d'escorte des tankers pour le détroit d'Ormuz. Il y aurait. La mission globale est défensive avec des actions offensives, voyez. Mais l'idée générale est défensive. Alors, bien sûr, on se préserve, c'est évident, avec des termes comme ça, on se préserve de réactions iraniennes.
Damien Chalamel.
Oui, moi, j'ai du mal à saisir ces prudences sémantiques que je trouve un peu grotesques.
Vous ne voyez pas l'attraction de stratégie.
En réalité, c'est l'ennemi qui nous choisit. Bon, l'ennemi, c'est l'Iran. Et pourquoi l'Iran nous choisit comme ses ennemis? C'est parce que, précisément, nous sommes l'allié de son ennemi qui lui fait la guerre. Donc, en réalité, on est...
Donc, pour vous, on est impliqué par...
Mais bien évidemment. Bien
en définition.
On devient co-belligérant. Et en plus de ça, comme vous le rappeliez, en général, on a des accords de défense avec un certain nombre de ces émirats. Donc, on est attiré dans cette guerre.
Pour Damien Chalamel, on est dedans.
C'est pas faux, mais est-ce que le problème, c'est justement qu'il n'y ait pas de but de guerre précis? Donc c'est difficile aussi d'engager une armée, défensivement ou offensivement, alors qu'on ne sait pas où on va. J'ai l'impression que c'est comme si le soldat ne recevait pas des ordres précis d'un commandement en chef.
Mais c'est ça qui est pathétique, c'est effectivement, c'est ça qui est atterrant. C'est-à-dire qu'on est entraîné dans un conflit dont on ne maîtrise pas, à l'origine duquel nous ne sommes pas. Et dont on ne maîtrise pas les buts.
Dont on n'avait même pas été prévenu d'ailleurs.
Oui, dont on n'avait pas été prévenu.
Général Sidos.
Franchement, mais désolant quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réagissez? Et puis sur le terrain militaire, que peut faire la France?
Alors, vous avez raison. On est embarqué dans une guerre dont on n'était absolument pas informé. Maintenant, quand on parle des conséquences économiques de ce qui se passe, on est embarqué. Je ne vais pas dire que c'est dérisoire le prix.
On subit les conséquences économiques.
Bien sûr,
on subit
les conséquences.
À la pompe.
Voilà, on subit. Notamment. Voilà, et puis tout le reste de l'économie qui va suivre, l'inflation, des faillites d'entreprises, etc. Enfin bon, un problème économique majeur. J'ai envie de dire, moi, le côté pragmatique des militaires, c'est que va falloir assumer. C'est-à-dire, on est obligé d'assumer les conséquences. On n'en a pas voulu, on n'est pas à l'origine, mais il va falloir assumer les conséquences. Les pays européens déjà assument, parce que ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin de gaz, le Japon en a besoin, le système mondial qui fonctionne sur l'économie, il peut pas... Donc voilà, et c'est là où on se retrouve pris dans une escalade et un engrenage. Alors on pensait avoir échappé à ça après les accords, les alliances de 1914. Sans alliance, on est embarqué.
On a quand même une alliance, l'alliance atlantique.
Excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un immense foutoir dont les seuls gagnants seraient les Israéliens, qui eux ont un but de guerre précis?
Bonne question, on se demande.
Alors, je vais répondre à ça, effectivement. Quand on observe.
Et puis Gérard Gachet.
C'est une guerre en coalition entre les Israéliens et les Américains. Les Israéliens, c'est la première coalition qu'ils ont depuis 1956. Avant, ils faisaient leur guerre. On leur donnait du matériel comme en 73. Ils faisaient leur guerre. Là, il y a une entente, il y a des plans opérationnels qui ont été répartis. Sur l'Iran, il y a des zones de frappe israéliennes et des zones de frappe américaines. L'espace est réparti. Il est certain que les Israéliens veulent en finir avec le Hezbollah. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Le Hezbollah est certes affaibli. Néanmoins, tant qu'il existe, et tant qu'il existe une tête dirigeante en Iran, il soutiendra le Hezbollah. La logique qu'on peut imaginer, c'est que si la tête est coupée à Téhéran, le Hezbollah ne sera plus soutenu. C'est ça qu'imaginent les Israéliens. Donc ils sont sur deux fronts. Ils sont sur le front de la neutralisation du pouvoir.
De leur acharnement à couper les têtes et décapiter tout le pouvoir.
Tout le pouvoir iranien. Pour couper, bien évidemment, ce soutien au Hezbollah. Les Israéliens, les affaires du Golfe, le pétrole, c'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est le soutien au Hezbollah. Ils sont dans la dynamique, c'est un terme militaire, dynamique, c'est pas forcément positif. Pour moi, ils sont dans la dynamique de la guerre à Gaza. Donc, ils veulent poursuivre avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui a été allié du Hezbollah, du Hamas, par idéologie. Ils ont soutenu le Hamas. Alors, le Hezbollah n'a plus le soutien de la Syrie, mais ils ont encore le soutien de l'Iran. Et donc, pour les Israéliens, couper la tête du pouvoir iranien, c'est neutraliser, affaiblir le Hezbollah et pouvoir finir le travail au Liban.
Gérard Gachet.
Oui, en ce qui concerne la France, vous avez dit, de toute façon, elle est embarquée et elle va bien devoir assumer cette participation. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la France a aujourd'hui les moyens de participer à un conflit qui risque en plus d'être long? Est-ce qu'elle a les moyens au niveau des effectifs projetables, de l'armement, notamment des missiles, surtout compte tenu de tout ce qui a déjà été donné à l'Ukraine de l'autre côté? Alors, est-ce qu'on a les moyens de participer à un tel conflit?
Que peut faire la France, général Sidos?
La France est également sur deux fronts, le front ukrainien et le front du Moyen-Orient. On consomme du matériel. L'industrie a été mise sur pied de guerre depuis 2-3 ans. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à produire? On a encore, faut pas, les moyens, Vous savez, les moyens, au niveau militaire, on les trouve toujours. On réduit la voilure éventuellement. S'il n'y a plus de missiles Mika, on attaquera au canon, hein, au canon mitrailleur, par exemple. Hein. Voilà. Après, bon, je ne sais pas quel est le niveau de progression et de fourniture de MBDA pour fournir des Mika, mais on mettra d'autres moyens. Alors après, il y a les moyens, même pour les Américains.
MBDA, c'est l'entreprise d'armement.
C'est l'entreprise qui fabrique les Mika. Les moyens, bon, bien sûr qu'on a une défense qui n'est pas pléthorique, qui devait être renforcée après les débuts de la guerre. Ça fait 4 ans qu'on doit renforcer, quand les budgets augmentent. C'est toujours la question délicate, parce que dans cette guerre, on fournira ce qu'on peut fournir. Les Américains ont des moyens infinis. Même eux, ils se posent la question du nombre de missiles consommés. Ils ont consommé énormément, des missiles antiaériens d'ailleurs, entre les missiles Patriot et les missiles TAD ou TSAD, TH2AD, là, des missiles antiaériens très performants, très coûteux. On peut toujours se poser la question, mais bah, dans ce cas-là, bah, j'ai envie de dire, on dégrade le niveau d'intervention, mais ben, l'industrie française produira. C'est délicat comme question, les moyens. Si on doit être engagé, même à bas niveau, on sera engagé. Même à bas niveau.
Il y a la question des cibles. Hein. Vous avez vu qu'il y a une attaque iranienne, plusieurs attaques d'ailleurs iraniennes, sur des installations gazières au Qatar et ailleurs, qui font des dégâts considérables. Donc la France condamne les attaques, pour l'instant, contre les dispositifs pétroliers. Mais enfin, on voit bien que ce sont des cibles majeures. Est-ce que la guerre risque de se dérouler, en fait, contre les infrastructures pétrolières et pour asphyxier l'économie de nos pays, sans forcément beaucoup de morts, du coup, mais avec des dégâts économiques plus qu'humains qui seraient considérables. C'est une espèce de mutation.
C'est effectivement intéressant à observer. Le déplacement d'une guerre où les Américains ont perdu 13 personnels, et les Iraniens, on sait pas très bien. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, quand on a les chiffres des pertes iraniennes, c'est pas gigantesque. C'est pas, on n'a pas encore atteint, excusez-moi, le chiffre épouvantable, par exemple, de 10 000. Il y a des centaines de tués, certes.
Mais ça n'a rien à voir avec les pertes de l'Ukraine, par exemple.
Bah exactement. Il y a des pertes militaires en Ukraine, avec des affrontements d'unités, certainement des unités complètement anéanties. En Ukraine, on a une guerre quand même très classique. Hein. Alors, on peut la comparer entre la guerre de 14-18 et 39-45 ou d'autres. On retrouve énormément d'aspects. C'est une véritable guerre d'usure, au niveau matériel et au niveau humain. Et là, effectivement, eh ben, à portée de vulnérabilité et à portée d'armes d'un belligérant, on a le cœur du fonctionnement mondial, c'est-à-dire l'économie pétrolière, gazière. Alors, on peut dire qu'il n'y a que 20% du trafic qui concerne l'Europe, mais enfin, bon, comme on est tellement lié aux Chinois, aux Japonais, etc., on est tous dans la même barque. Et là, les Iraniens, ils ont une occasion en or, avec peu de moyens, de toucher. Alors, ils ont franchi des lignes rouges. Alors, les lignes rouges, dans un conflit, il arrive toujours un moment où on les franchit. Bah, là, ils les ont franchies au bout de 15 jours. Et ils ont forcément un levier, un énorme moyen de pression sur toutes les, entre guillemets, puissances mondiales. Alors, est-ce que les Chinois vont aller dire aux Iraniens « arrêtez » Peut-être. Est-ce que les Russes vont dire aux Iraniens d'arrêter? Pas forcément, d'ailleurs, puisqu'on sait que les Russes sont gagnants avec l'augmentation du prix du pétrole. Et le président Trump a accordé une levée de l'interdiction de vente du pétrole pendant un mois. Également, la guerre, c'est un élément, elle peut s'étendre. Alors, elle va s'étendre. Bon, elle s'étend déjà à tous les pays du Golfe, ce qui est très gênant. Les Saoudiens n'apprécient pas du tout. Mais également, les Israéliens ont frappé des bateaux iraniens dans la mer Caspienne. Là, on est dans la mer Caspienne. Des bateaux qui, certainement, avaient récupéré du matériel.
Donc, sur un autre théâtre d'opération.
Là, ça monte vers le nord. Alors, c'était des bateaux iraniens. On ne dit surtout pas que c'était des bateaux russes. Mais on suppose, en tout cas, officiellement, les Israéliens les ont frappés parce qu'ils amenaient du matériel russe au profit des forces de défense iraniennes.
Donc on n'est pas à l'abri d'une extension du conflit, c'est ce que vous voulez dire.
Tout est possible.
Gérard Gachet.
Oui, mon général, vous avez été, entre autres postes prestigieux, vous avez été chef du bureau de liaison de la FINUL, dont vous connaissez évidemment très très bien le terrain. Est-ce qu'Israël a les moyens, puisqu'on parlait des buts de guerre des uns et des autres, d'éradiquer d'un côté le Hezbollah et de l'autre le Hamas? Ce qui effectivement semble être le double objectif de Benjamin Netanyahou. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que là aussi, on a vu, même avec le Hamas, avec tout ce qu'ils ont pris, bah, ils sont pas encore totalement disparus, apparemment. Donc, est-ce qu'ils peuvent arriver à ce double objectif?
Ils en ont l'espoir. Et effectivement, le Hamas, après les énormes offensives qu'il y a eu, et qui existaient bien avant d'ailleurs, hein, ça n'a pas commencé en octobre-novembre 2023, ils ne sont toujours pas arrivés à éradiquer, avec des moyens absolument extraordinaires, hein, des moyens humains. Ils ont subi beaucoup de pertes, hein, les Israéliens, dans la bande de Gaza, hein, plus même, je crois, que pendant la guerre de 73, hein, c'est quand même impressionnant. Ils ont des capacités humaines d'infiltration et de forces spéciales qu'on n'imagine pas. Tout ce qu'on peut créer en Israël comme système d'information, de retournement, d'espionnage, ils l'ont mis en œuvre. Ils l'ont mis en œuvre. Et malgré ça, ils ne sont pas arrivés à décapiter le Hamas, certainement. Le Hezbollah, pareil. On en est quand même à plusieurs guerres contre le Hezbollah. Et ils ont le front iranien, où ils consacrent des moyens aériens, des moyens de renseignement, des forces spéciales, très certainement, de l'information, des ciblages. Donc, c'est effectivement, les Israéliens ont trois fronts. C'est peut-être pour ça que le front du Sud-Liban, il y a une progression très méthodique, très lente, en fait. Hein. Ils prennent hauteur par hauteur, village par village.
Ça, c'est le Hezbollah, ça.
Voilà, contre le Hezbollah, au Sud-Liban. Et là, on a des tractations.
C'est l'armée israélienne face au Hezbollah.
Ah, c'est l'armée israélienne face au Hezbollah. Alors, ils ont déjà engagé sur le territoire libanais deux divisions, et on a pris les informations, il y en a trois, quatre, cinq autres, je ne sais pas exactement. Bon. Enfin, il y a du monde là-haut, il y a du monde. Mais ils sont très prudents, ils ont été échaudés par la guerre en 2006. Vous savez qu'ils ont été échaudés par l'occupation de 1982 à 2000. Où ils ont été... ils n'ont pas subi des pertes gigantesques hein, pendant cette période. 300, disons 400 soldats tués. Mais ça dure longtemps, il n'y a pas plus de résultats. Bon. Par contre, moi, ce qui me surprend, bon, là, le Hamas a commis les massacres du 7 octobre et a engagé le Hezbollah. Le Hezbollah, par solidarité, a bombardé les villes du nord d'Israël. Et les Israéliens ont réagi par d'abord des tirs d'artillerie, des frappes aériennes. Ce qui a amené un cessez-le-feu en novembre 2024. Et là, on recommence. On recommence. Et le Hezbollah a besoin de survivre. Alors, est-ce qu'il va... Il est déjà venu à la table des négociations, le Hezbollah. Ce n'est pas la première fois qu'il subit beaucoup d'attaques. Il est venu. Alors, est-ce qu'il va adopter un profil bas et venir à la table des négociations? Est-ce qu'il va accepter un désarmement? Ce que veut le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais veut que le Hezbollah désarme. Il a déclaré illégale la milice armée du Hezbollah, qui est la seule survivante de la guerre civile. Il y a quand même une lassitude de la population libanaise, voire de la population chiite, qui, vraiment, face à la puissance de feu israélienne, en a assez de souffrir, c'est évident. Ouais. Néanmoins, l'idéologie reste. Il ne faut pas être dupe de ça. L'idéologie va rester, l'idéologie du Hezbollah va rester. Ça va. Il y a une option qui est de céder face à la puissance de feu israélienne et après de renaître quelques années après.
Vous parlez de l'Iran, là.
Du Hezbollah libanais. Alors, il faut savoir que les Israéliens l'appellent...
Qui pourraient disparaître temporairement.
Voilà.
Hein. Alors, justement, ce sera la dernière question, parce que malheureusement, on arrive au bout de notre temps, mais on vous écouterait longtemps. Si on se place un peu dans la peau du pouvoir iranien, ils sont attaqués, mais ils ne sont pas envahis. Hein. Quels sont les défis urgents du haut commandement iranien? Quelle stratégie est-ce qu'ils doivent déployer? Bon, c'est vrai qu'on raisonne toujours dans le camp d'en face, mais c'est important de se mettre à leur place aussi pour deviner ce qui attend un petit peu dans le conflit.
Néanmoins, vous avez tout à fait raison, il faut toujours se mettre dans la tête de l'adversaire. Ça, c'est le principe de base, ce qui n'est pas forcément ce qui a été fait par le président Trump, où il a cru que les Iraniens allaient réagir comme des Occidentaux qui se prennent 15 jours de bombardement. Dans la tête des Iraniens, bon, c'est quand même un régime qui existe depuis pas mal d'années, qui s'est préparé à affronter le déluge de feu américain. Ils y ont déjà, entre guillemets, goûté en 2025. Donc ils ont eu une petite année, mais ils se sont adaptés. On sait qu'il
y a eu cette tentative de destruction de leur dispositif nucléaire, dont on nous a dit, y est, c'est terminé, la puissance de l'Iran appartient au passé. Mais c'était il n'y a pas si longtemps.
Oui, d'ailleurs...
Tous les observateurs n'étaient pas de cet avis. Ils attendaient des preuves beaucoup plus concrètes sur la destruction.
Non, c'était l'avis de Trump, en tout cas. Enfin, c'était ce qu'il disait.
C'est encore l'avis du responsable du renseignement américain, tous ces gabarits.
Exactement.
Enfin, je veux dire, c'est quand même la plus haute autorité en matière de renseignement, et elle est encore en poste, elle, qui le dit ouvertement, officiellement. Donc,
Exactement. Devant une commission du Sénat. Donc, c'est très délicat cette affaire-là de dire effectivement. Mais la position des Iraniens, c'est simplement, ils ont 31 systèmes de commandement, 31 structures autonomes. Ils ont prévu cette attaque, ils ont prévu que le commandement centralisé soit décapité. Alors, ce que je voulais dire, quand ils sont au pouvoir depuis 1979, c'est quand même plusieurs générations qui sont dans la logique idéologique iranienne. Ils sont attaqués par un ennemi. Alors, certains disent que les Iraniens ont des sympathies pour les Israéliens. Néanmoins, quand vous prenez des bombes israéliennes, la sympathie peut se réduire, même si elle est culturelle, historique, etc. Et puis même les Américains... faut être méfiant là-dessus, sur la entre guillemets sympathie des Américains, des Iraniens vis-à-vis des Américains, parce qu'ils potentiellement ils les libéreraient, etc., etc. Le Shah d'Iran est tombé parce qu'il y avait un rejet.
Ça a l'air plus compliqué que ce qu'on dit.
Il y avait un rejet du monde américain.
Ne se passe pas.
Il y avait un rejet du monde américain. Le Shah d'Iran a été imposé par les Américains. La conscience iranienne, je veux bien que le régime, c'est certain, que le régime
ne soit pas très populaire.
N'est pas confortable. Je suis certain, d'accord, ils ne sont pas populaires, c'est évident. Néanmoins, leur demander de se soulever face à un régime qui les embrigade depuis des années et des années, le régime iranien a très probablement encore la ressource humaine, la ressource de combattants, la ressource d'organisateurs, de chefs,
Pour résister encore longtemps. Ouais. Général Sidos, merci infiniment de nous avoir éclairé sur ce conflit qui dure et qui se durcit et qui bouge de jour en jour. On l'a vu en parlant avec vous. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL. Vous avez exercé ce poste prestigieux de 2016 à 2018. Merci de nous avoir apporté votre regard d'officier sur les opérations en cours. L'idée, c'était vraiment de plonger sur le théâtre d'opérations militaires et d'essayer de comprendre ce qui se passait. J'espère que vous reviendrez nous voir souvent et j'espère pour d'autres affaires et que celle-là arrivera à une conclusion parce que on n'a pas l'air d'en prendre le chemin.
Mais je parlerai avec plaisir de la mission de la FINUL, de la mission de l'ONU au sud Liban.
Voilà, et bien vous reviendrez. Merci mon général.
Merci beaucoup.
Allez, nous allons en parler dans notre deuxième sujet. C'était cette semaine, un djihadiste français a été jugé à Paris pour esclavagisme sexuel à l'encontre des yézidis.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
On va parler d'un martyr contemporain, celui des femmes yézidis et de leurs enfants, témoignage exceptionnel. On ne sait pas très bien ce qui se passe, car elles sont très peu nombreuses à être revenues de l'horreur pour raconter leur captivité sous le joug de l'État islamique. Mais cette semaine, trois femmes yézidis ont pris place sur le banc des parties civiles de la cour d'assises de Paris, face à un box vide. C'était celui de leur tortionnaire, le djihadiste français Sabri Essid. Vous étiez présente au procès, Aliénor de Pompignan, bonsoir.
Bonsoir Marc.
Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire, vous êtes en charge notamment des affaires judiciaires et vous leur avez consacré un article que je recommande, qui s'appelle, qui est dans notre rubrique au tribunal, que vous alimentez régulièrement, qui s'intitule « Esclavagisme sexuel, exaction à djihadiste français jugé aux assises ». Alors, Sabri Essid est jugé pour génocide et pour crime contre l'humanité, c'est quand même pas rien. C'est le premier procès d'un Français pour de tels crimes, dites-vous. Mais il n'était pas présent à l'audience. Alors, pourquoi est-ce qu'il est absent et que lui reproche précisément la justice, Aliénor de Pompignan ?
Alors, c'est surtout le premier procès sur lequel la France se penche concernant le sort des yézidis. Il n'était pas présent parce qu'il est présumé mort. Daesh avait annoncé sa mort en 2018. Ça reste encore voilà, à prendre avec des pincettes. Donc voilà, il a été condamné cet après-midi, en fin d'après-midi, à la réclusion criminelle à perpétuité par défaut. C'est ce qu'on appelle quand l'accusé n'est pas...
Alors il vient d'être condamné il y a
quelques heures.
Quelques heures, hein. Je rappelle que nous sommes vendredi soir parce que l'émission sera rediffusée. Et donc il était donné pour mort par Daesh. Hein. Les juges d'instruction n'avaient pas pu établir avec certitude son décès. Hein. C'est toujours
le cas. Parce que c'est ce qui arrive souvent, les terroristes qui se font passer pour morts pour qu'on perde leurs traces. Ils disparaissent dans la nature et c'est peut-être ce qui est arrivé.
Voilà, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce Sabri Essid et quel est son parcours? Je rappelle que c'est un Français, hein, donc c'est quelqu'un. Est-ce qu'il est né en France?
Alors, il est né en France, c'est un franco-tunisien. Donc, pour faire le chemin inverse, donc on lui reproche d'avoir participé aux exactions contre le peuple yézidi et en fait d'avoir participé à l'organisation systématique l'anéantissement de ce peuple, de cette minorité yézidi qui vit en Irak. Mais malgré tout, c'est Français, donc il est parti, il est arrivé en Syrie de Toulouse avec un long bagage de djihadisme déjà avant de partir. C'était un proche de Mohamed Merah, un proche des frères Klein.
Voilà, donc Mohamed Merah qui avait intenté les attentats de Toulouse.
De Toulouse et Montauban. Quelques jours avant, il avait échangé de nombreuses fois avec lui. Il avait aussi été pris sous la coupe des frères Klein, donc les frères Klein qui sont connus pour être la voix de Daesh, qui avait revendiqué les attentats du Bataclan. Il s'était radicalisé très jeune, à 16 ans, en même temps qu'il avait été déscolarisé. Et donc, il a pu partir en 2014 en Syrie avec femme et enfants pour gonfler les rangs de Daesh.
Et alors, là-bas, on ne l'accuse pas de petites choses, hein, puisqu'il est accusé d'avoir réduit des femmes et des enfants, et des hommes aussi, d'ailleurs, esclavage, violés, maltraités. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ses victimes à lui...
Un vrai poète.
Ah, oui, c'est ça.
Ses victimes à lui, ce sont 4 femmes et leurs enfants, donc 15 personnes en tout. Il est soupçonné d'avoir fait beaucoup plus de victimes, évidemment, mais en fait, on a tellement peu de témoignages de ces victimes qui ressortent de l'enfer, qui veulent parfois pas parler, ou bien tout simplement qui meurent ou qui restent disparues, que voilà, on a ces 4 femmes-là qui évoquent...
Qui, elles, ont accepté de parler.
De parler, de se constituer partie civile. Il y en a 2 qui ont témoigné à la barre jeudi et jeudi dernier. Les faits qu'elles décrivent sont horribles. On parle de...
Donc vous les avez vues, hein, vous étiez présent dans le...
Voilà, il y avait quelques-unes. Alors elles n'étaient pas tous les jours toutes là, mais il y avait quelques-unes des femmes justement qui étaient là. Et toute une communauté derrière qui les soutenait. C'est des crimes qui va de la, donc, du meurtre du père, généralement, de famille. On prend les petits garçons, on les envoie se former religieusement, puis une fois la formation religieuse passée, on les envoie en combat. Ce sont les lionceaux de Daesh.
Et les petits garçons qui ont quel âge?
À partir de 12 ans, on les envoie se former et combattre. Avant, généralement, on les utilise pour accompagner les épouses des djihadistes. Quand elles sortent dehors, elles ne peuvent pas sortir toutes seules, donc on leur met un petit garçon comme chaperon. Et à passer 12 ans, il est trop grand pour être laissé seul avec une femme, donc il est envoyé au combat. Pour les petites filles, les petites filles peuvent rester avec...
Tout ça, ce sont des éléments qui ressortent du dossier, du procès, etc. C'est des éléments, il n'y a rien d'imaginaire là-dedans, c'est établi pendant le procès.
Non, exactement. On avait des personnes qui venaient d'associations qui, justement, sont allées là-bas pour essayer de racheter les esclaves, de les faire sortir de cet enfer-là. Et donc, ils ont témoigné à la barre de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont compris des mécanismes de Daesh. Donc ça passe par des boucles Telegram où voilà, on a des marchés aux esclaves, ça s'appelle le supermarché de Daesh, le centre commercial de l'État islamique, sur lesquels on dit moi j'ai une femme à vendre, 5 000 dollars, elle est docile, elle connaît le Coran. Donc voilà, c'est tout ça. Ah,
c'est les... ça, parce qu'il y a des prix. Donc on vend, donc les petits garçons sont vendus. Hein,
voilà, enfin, entre 1500 et 3000 dollars.
Voilà. Il y a un prix pour les petites filles.
Les petites filles ont le prix le plus élevé parce qu'on considère qu'elles seront aptes à procréer et le plus possible. Donc à partir de 9 ans, enfin dès les premiers signes de puberté, les petites filles sont considérées comme utilisables sexuellement. Donc elles ont des prix compris entre 9000 et 14000 dollars. Et elles sont très recherchées. Mmh. Et les femmes, alors les femmes trop vieilles...
Par tous ces milieux de Daesh. Hein.
Voilà, exactement. Les combattants, les soldats.
Mmh. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi cette communauté yézidi est spécialement ciblée par Daesh, par l'État islamique? Ce sont des chrétiens.
Non. Alors, ce ne sont pas des chrétiens. Ouais. C'est une religion qui considère justement comme sataniste.
Que Daesh considère comme des satanistes.
Oui, pardon. Que Daesh considère comme sataniste. Ils ont, en fait, certains disent qu'ils ont des origines du christianisme, de l'islam sunnite et d'une religion ancestrale. Mais en fait, ils ne
cochent pas vraiment toutes les cases dans aucune religion, quoi, c'est ça?
Non, c'est ça. Ouais.
Ils ne sont pas dans la ligne du prophète, en tout cas, apparemment.
Non, pas du tout. Et ils ont même un statut inférieur aux chrétiens, parce que les chrétiens sont des croyants du livre. Et donc, comme les juifs, à certains endroits, ils peuvent bénéficier d'une tolérance et donc payer la dîma, qu'on appelle la dîma. Les peuples mécréants n'ont pas droit à ça. Et donc c'est la mort, la conversion ou l'esclavagisme. Et un esclave, un combattant de Daesh, fait ce qu'il veut de son esclave. Il y a on va dire qu'il l'achète devant une juridiction, il la revend devant une juridiction, c'est son objet. Ah. Et voilà, ils n'ont pas d'autre statut.
Voilà, donc je rappelle qu'on parle du procès de ce djihadiste français qui donc a participé à tout ce système. Vous nous disiez donc les petits garçons envoyés dès 12 ans pour devenir des hommes d'armes, hein, des soldats et sans doute de la chair à canon. Les petites filles vendues pour devenir des
mères porteuses, des esclaves, des...
Ouais. Voilà. Voilà. Et les femmes?
Et les femmes, alors les femmes trop âgées qui ne sont plus en âge de procréer sont souvent exécutées. Et sinon, elles sont aussi utilisées pour procréer ou pour assouvir toutes les volontés des djihadistes. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est une telle valeur marchande qu'ils se les revendent entre elles. Ils se les revendent entre eux. Donc là, les femmes qui sont passées entre les mains de Sabri et Sid ont été revendus jusqu'à 20 fois à 20 combattants différents pour quelques milliers de dollars, parfois échangés contre une paire de baskets Adidas. Et donc tout ça, c'est répertorié sur des comptes, des fils Telegram sur lesquels les experts qui sont venus témoigner ont pu s'infiltrer.
Alors on peut en citer... Damien Chalamet.
Oui, une question, c'est vraiment l'abjection... C'est la plus totale, enfin, on écoute, quand on lit, oui. Donc on disait que c'était un Français, cette nouvelle France, un franco-tunisien, mais est-ce que son entourage, ce sont essentiellement des francophones, ce sont des Français, d'autres maghrébins, est-ce que ce sont quel est, en fait, je veux dire, le... C'est
son entourage de vie,
France,
quoi.
Pas en France. Bah, en France, on a bien compris que c'était Mohamed Merah et quelques musulmans radicalisés, en l'occurrence de la banlieue toulousaine. Hein. Quand il était en Syrie, c'était des francophones.
Alors, je ne sais pas précisément, parce que en fait, ils sont. Donc lui, il a eu pas mal de postes à responsabilité. On va dire que c'était un cadre de Daesh. D'accord. Il a été nommé émir deux fois à Rabat et à Raqqa et je ne sais plus où. Et en fait, il y a énormément de nationalités différentes. Ce qui fait qu'il y a d'autres
parmi
pays comme la
de
France
Daesh.
Parmi les combattants de Daesh. Il y a des Suédois, il y a des Belges, il y a des Français. Il y a beaucoup de... Donc lui venait de la filière Artigat en France, dont faisait partie Mohamed Merah et qui a envoyé beaucoup de ses adeptes en Syrie et en Irak.
Artigas, c'est où? C'est dans le Béarn, quelque chose comme ça?
Oui, près de Toulouse, ça. Voilà, exactement. Et donc c'est des
filières béarnaises.
Et en fait, il y a des filières dans chaque pays qui envoient. Et donc c'est très international.
Et juste dans son profil,
Damien Chalamel,
il Il a été scolarisé en France, son itinéraire.
Il a été scolarisé en France jusqu'à 16 ans.
Et alors, donc,
pour l'anecdote, il a été reconnu sur une vidéo qui a beaucoup tourné, dans laquelle on voit un enfant de 12 ans qui s'avère être son beau-fils, donc le fils de son épouse, qui abat à bout portant un otage palestinien d'une balle dans la tête, enfin de 3 balles dans la tête. Et donc il apparaît sur cette vidéo et il s'avère que ce petit garçon qui tire a été reconnu par des élèves français en disant « mais il était dans ma classe celui-là ». Alors voilà, c'est pour l'anecdote, ça n'a pas été, ça a pas été absolument défini parce que ce petit garçon n'a jamais refait surface. Mais donc voilà, c'est des filières qui se déplacent et qui mènent une vie totalement différente, mais qui a été bien préparée en France en fait.
Ouais, on va revenir au fond du dossier, mais est-ce que Franck Herriot, vous vouliez...
Non, mais ces filières, on les connaît depuis plus de 20 ans. Je les ai moi-même traitées quand j'étais à Valeurs, et surtout les filières de la banlieue toulousaine, puisqu'on avait été attaqué à l'époque pour diffamation. Donc c'est des vieilles filières. Vous avez cité Mohamed Merah notamment, enfin, tout ça a eu le temps de grandir, de mûrir. Pour aboutir à ce qu'on sait.
Oui, mais là, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a dans le détail les exactions, le parcours, et puis quand même la sauvagerie de ces gens-là, des yézidis notamment.
Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres procès de ce type dans les tuyaux ?
Oui, et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucune enquête internationale qui a été menée sur le sort des yézidis. Donc en fait, c'est aux juridictions des États de faire le pas, de reconnaître le génocide et les crimes contre l'humanité. Donc en Europe, il y a l'Allemagne qui s'est prononcée 3 fois, la Suède a jugé, a condamné 1 fois quelqu'un en 2025, et la Belgique aussi fin 2025. Donc là, la France s'est ajoutée à ça, et en fait, c'est un énorme pas dans la reconnaissance du génocide yézidi, qui eux, en fait, n'ont personne pour le moment pour les reconnaître, mis à part les juridictions nationales.
Alors, je rappelle que nous sommes avec Aliénor de Pompignan, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire, vous occupez des affaires judiciaires notamment à Boulevard Voltaire, mais pas seulement, de bien d'autres choses aussi, et on parle de Sabri Essid, donc, qui est jugé, on vient d'avoir le verdict pour génocide, crime contre l'humanité, pour des pratiques absolument insoutenables, et ça permet de lever le voile sur les pratiques de ces groupes radicalisés, notamment vis-à-vis des yéziris. Et je voulais vous demander, est-ce que sur ces yézidis, combien sont-ils? Où est-ce qu'ils vivent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce peuple hein, ou cette, qui subit vraiment la sauvagerie absolument folle des soldats de Daesh, y compris français?
C'est une population, donc c'est un groupe religieux qui vivait principalement dans le nord de l'Irak, donc dans la région du Sinjar, qui est une région très montagneuse. Ils étaient à l'époque, en 2014, au moment des assauts, 400 000 à peu près dans cette région, répartis dans l'Irak. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'il y a eu une résistance qui s'est installée dans les monts du Sinjar. Donc une partie a réussi à s'isoler en hauteur dans les montagnes. Ils ont instauré une résistance pendant plusieurs années jusqu'à ce que la région soit libérée des djihadistes. Maintenant, ils se sont réfugiés un peu partout. Donc il en reste évidemment en Irak, mais maintenant ils partent en Australie, en Allemagne. Et alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que il y a encore 2500 personnes yézidis qui sont encore entre les mains de l'État islamique. Donc, ou bien ce sont les enfants qui ont été éduqués depuis leur tout jeune âge, qui ne parlent même plus yézidi, qui sont convertis à l'islam et qui ont été sous le joug de l'État islamique depuis toujours, donc qui ne connaissent que ça. Il y a encore les esclaves et il y a les personnes dont on ne sait pas si elles ont survécu ou pas.
Alors les esclaves, hein, vous disiez que... ils échangent une paire de baskets contre une femme yézidi.
Voilà, exactement. Et alors pour ça, tout est basé sur la juridiction du livre.
Voilà, c'est ça qui est intéressant quand même.
Exactement. Donc sur cet échange, par exemple, il a été lu et le djihadiste en question dit « Ne riez pas, je ne fais pas de sarcasme, le prophète l'a fait ». Ou alors le frère du prophète l'a fait. Et il sort la sourate dans laquelle l'homme saint a vendu son épouse contre une paire de chaussures.
Voilà. Il s'appuie sur leur lecture de l'islam.
Exactement. Tout est structuré. Leur invention
des sourates.
C'est pas des inventions.
Il y en a certaines qui n'existent pas. Hein,
Enfin, pour eux, ils...
Oui, pour eux, elles existent, bien
pour
sûr.
Pour eux, elles existent, j'imagine. Hein. Voilà. Et, oui, donc le verdict... est-ce que vous pouvez nous rappeler le verdict?
Oui, il a été condamné à la perpétuité, comme on pouvait s'y attendre.
Par défaut, donc.
Par défaut. Voilà, il est...
Par contumace.
Voilà.
On dit que voilà, et donc le... perpétuité, oui. Mais enfin pour l'instant il court toujours a priori sauf s'il est mort, mais bon.
Sauf s'il est mort.
Ouais, ouais.
Ce qui est possible. Ah. Et donc le président a reconnu à la fois l'importance de condamner au maximum ces exactions et toute la responsabilité que cet homme a eue, même s'il n'était pas la tête pensante du génocide des Yézidis. Il savait pertinemment, en revendant une esclave, quel allait être son sort. Et voilà, donc pour parler du génocide et pour le caractériser juridiquement, il a par exemple forcé la contraception. Enfin, tous ces soldats-là pouvaient choisir de forcer une contraception pour ces femmes, donc, ou bien pour en...
De les contraindre à la
comme il voulait, voilà, ouais. De les contraindre, ouais. Ou bien de leur faire porter leurs enfants. Et donc, comme ça, il séparait les hommes yézidis des femmes yézidis. Comme ça, il n'y avait plus d'enfants yézidis. Par contre, les femmes yézidis portaient les enfants des djihadistes et qui devenaient propriété de l'État islamique.
Non, mais c'est absolument effarant. Et les juges d'instruction, vous dites ça dans votre article, Lienor, disent qu'il s'est entièrement associé, je cite entre guillemets, à cet asservissement systématique en le mettant en œuvre personnellement. Donc la France a couvé quand même en son sein, dans le sein de son immigration, des gens qui sont capables de faire ça. Ça pose quand même quelques questions sur l'immigration, sur l'intégration, c'est le moins qu'on puisse dire, et sur ce que le type de personnes qu'on est quand même capable de produire en France,
oui.
Non?
Bah oui, c'est ça. Et puis surtout, ce qu'on fait de nos radicalisés qu'on sait dangereux. Alors apparemment, il était sous la surveillance de la DGSI depuis sa sortie de prison en 2010 ou 2011. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de repartir en Syrie aussi vite qu'il a pu et d'y emmener femmes et enfants.
Incroyable. Voilà, donc document à lire. Rappelez-nous le texte de votre article, le titre de votre article, Aliénor, esclavagisme sexuel, je l'ai sous les yeux,
oui,
en fait,
ça,
exaction, un djihadiste français jugé aux assises. On peut le lire sur le site de Boulevard Voltaire. Merci beaucoup, Aliénor. Je rappelle que vous êtes journaliste donc à Boulevard Voltaire, en charge notamment des affaires judiciaires. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez, vous êtes bienvenue. Alors, j'avais quelques messages d'auditeurs. Un auditeur nous dit que embarqué en défense contre l'Iran, privé de pétrole du Golfe que Macron s'approvisionne. Oui, il dit que que Macron s'approvisionne via la Russie en pétrole, plutôt que d'en être privé par le Golfe. C'est à lui, donc, de convaincre von der Leyen. Voilà, bon, c'est pas tout à fait la voie que nous avons prise, c'est certain. Ensuite, un autre auditeur nous dit, il est vrai, alors là, c'est sur le porte-avions, vous savez, notre porte-avions, la France libre.
Le
France libre. Il est vrai que ce nom du futur porte-avions me semble être un affront de plus au peuple français, sachant qu'il n'aime ni ces derniers, donc les Français, ni la France. Je suis assez d'accord avec lui. Mais pas Franck Herriot, qui lève les yeux au ciel.
C'est une réalité historique, la France libre. Voilà, que ce soit dans la continuité, ça ne me choque pas du tout. Puis Macron, je vous l'ai dit tout à l'heure, disparaîtra et la France libre restera.
Oui, certes. Enfin bon, disons qu'il l'ait choisi, lui, c'est assez original,
français,
on va dire. Voilà.
Deux fois même.
Oui, ça c'est certain.
Ah bah oui.
Voilà, pour quelqu'un, dit notre auditeur, qui a confiné le peuple, bradé l'industrie, saccagé l'instruction et le médical, c'est oui, vraiment une ignominie, désolé, de la force de ses vocables. Voilà.
On l'enverra servir sur le France libre,
mais...
comme matelot de première classe.
Exactement.
Voilà.
Ça lui ferait du bien. Voilà, allez, c'est l'heure de notre clin d'œil culture.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, donc notre petit clin d'œil, vous savez, c'est l'heure des livres, des films, ils ont tous préparé quelque chose.
C'est tellement été un clin d'œil que j'avais fermé les deux yeux. Il a fermé les deux yeux.
Incroyable. Heureusement, il y a un bon élève, Gérard Gachet.
Oui, pour une fois, bah, j'ai eu un petit peu de temps. Voilà. Contrairement aux autres. Non, je voulais parler d'un roman qui est déjà d'ailleurs rattrapé, voire même dépassé par la réalité. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Ce roman, c'est le dernier livre de Michael Connelly, l'auteur américain de romans policiers très, très connu. Ouais. Et là, son héros, ce n'est pas Harry Bosch, qui est son célèbre détective, mais c'est un avocat, Mickey Haller, qui est d'ailleurs le demi-frère, je crois, de Harry Bosch. Et Mickey Haller se lance dans une action contre une entreprise qui fabrique l'intelligence artificielle et des robots de conversation, comme on dit dans l'intelligence artificielle. Et il se trouve que là, il y a le cas où un robot d'intelligence artificielle qui était en conversation régulière avec un jeune homme l'a poussé à assassiner sa petite amie, une jeune fille, etc. Et ben, je disais que le roman est tout à fait passionnant, puis il y a ces scènes de procès d'audience judiciaire, comme les Américains savent très 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 bien les raconter. Et ce roman, je disais, il dépasse, il est rattrapé par la fiction, puisqu'on a déjà eu aux États-Unis l'an dernier un adolescent de 16 ans qui s'est suicidé, là, avec l'assistance de son robot de conversation, intelligence artificielle, qui lui a même donné des conseils pour réaliser le nœud de la corde pour se pendre. Et on a également un adolescent de 17 ans qui a été poussé, là aussi, par son robot de conversation d'intelligence artificielle, a éliminé ses parents. Alors, il n'a pas eu le temps de le faire, parce que les parents ont quand même surpris la conversation et le projet. Il devait éliminer ses parents, tout ça parce que ses parents lui limitaient son temps devant les écrans. Donc, le robot voulait se venger des parents et elle avait poussé le jeune à les éliminer. Donc, vous voyez que ce roman de Michael Connelly, donc, qui s'appelle, je vais vous donner le titre exact, « Sans âme ni conscience », aux éditions Kalman-Lévy, est parfaitement de l'actualité. En plus, il est parfaitement bien enlevé, comme la plupart des romans de Michael Connelly.
Absolument. Vous nous rappelez l'éditeur,
l'éditeur
titre,
c'est
l'éditeur.
Kalman-Lévy.
Voilà. Alors, moi, j'avais pensé à un film, mais je ne l'ai pas vu. Mais on en
parle. Ah, c'est facile, ça.
Mais on en parle beaucoup. J'ai très envie d'aller le voir. Donc, je vous fais une pré-vente et je vous ferai la critique après. Absolument.
Avec Rayons du jardin. Il paraît qu'il est remarquable d'après les gens qui l'ont vu.
Les rayons et les ombres. Alors, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est que Libération a dit grand mal. Donc, j'ai la critique de Libération.
C'est un historien qui en dit grand mal dans Libération.
Voilà. Alors, je ne sais plus. Ben non, je ne l'ai pas.
Oui, c'est sur la vie de Jean Luchaire.
Voilà, donc c'est la vie de Jean Luchaire, qui était devenu patron de presse pendant l'entre-deux-guerres, et qui, au moment de la guerre, s'est rapproché beaucoup de Otto Abetz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui était un type assez cultivé. Voilà. Et donc, ces deux personnages qui, auparavant, n'avaient pas tellement de lien avec l'idéologie nationale-socialiste, se sont retrouvés embarqués, et ça raconte leur évolution avec la fille de ce patron de presse, Corinne
Luchaire,
qui est actrice, je crois, et qui, elle, va vivre évidemment de manière très forte et très violente le dénouement de tout ça. Voilà, donc on est entre les deux guerres. C'est un très long film, 3h30, me semble-t-il. 3h15, c'est ça. Jean Luchaire avait fondé les Nouveaux Temps. Voilà, je cherchais le nom de son journal.
Et on peut rajouter que, comme beaucoup de collaborationnistes, il venait des horizons pacifistes. C'est à ce titre-là qu'il fréquentait Otto Abetz dans l'entre-deux guerres. Ouais. Il faisait partie de ces Français de bonne volonté qui pensaient qu'effectivement, il fallait, ce qui était tout à fait louable, faire définitivement la paix avec nos cousins germains d'Outre-Rhin. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ça venait, donc c'était quelqu'un qui était plutôt des rangs, on va dire, de la gauche au sens large, et du pacifisme, certainement pas des rangs d'une certaine droite nationale, comme on voudrait nous faire, nous faire croire.
Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de pacifistes qui ont basculé dans la collaboration.
Il y a un lien avec ce qu'il disait tout à l'heure le général Sidos. Il nous rappelait qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait eu des poussées d'antimilitarisme à l'époque et de prise de distance entre le peuple français et son armée, parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu le mouvement « Plus jamais ça », qu'on ne voulait plus revoir ces scènes terribles de la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qui a poussé effectivement deux gens venus du pacifisme, de la gauche, du Parti Réal, vers une certaine neutralité vis-à-vis de l'Allemagne, et même vers après, vers une certaine collaboration, une fois que les Allemands étaient entrés en France.
Ou une collaboration certaine.
Oui, une collaboration certaine.
Absolument. Et non, mais c'est d'ailleurs très logique. Les pacifistes, c'était d'ailleurs il y avait tout un pan de l'opinion qui avait basculé dans le pacifisme à cause des horreurs de la guerre de 14. Donc tout ça s'explique assez, assez logiquement. Et parmi eux, la gauche avait un poids considérable. Et donc ça explique quand même que beaucoup que l'Assemblée nationale ait voté les pleins pouvoirs à Pétain après une défaite qui a été extrêmement rapide.
Je crois que le film, d'après ce qu'a dit le metteur en scène lui-même,
est assez équilibré, je crois.
Il dit bien qu'il n'y a aucune espèce d'excuse morale à apporter au personnage de Jean Luchaire, mais qu'en revanche, je crois que notamment l'interprétation de Jean Dujardin essaye de montrer les contrariétés internes d'un personnage, les contradictions, les drames internes qui le déchirent. Et je crois que le simple fait de vouloir être objectif, entre guillemets, dans la façon dont il joue le personnage, lui vaut déjà un certain nombre d'attaques virulentes venues de la gauche. Il a l'habitude, Jean Dujardin, il avait déjà été très critiqué lorsqu'il était arrivé avec la baguette sous le bras et le béret basque. C'était au moment de la Coupe du Monde de football,
la Coupe du Monde de rugby.
Pardon, pour la série de la Coupe du Monde de rugby. Voilà. On avait dit qu'il mettait en exergue la France franchouillarde et quasiment raciste. Là, il va en reprendre certainement un peu dans la figure de la part des mêmes, mais je pense qu'il a manifestement le dos et les épaules qui lui permettent de résister.
Absolument. Et donc, Jean Dujardin, qui donc joue Jean Luchaire, et puis l'actrice qui joue sa fille, et qui je crois est assez touchante, c'est une actrice qu'on connaît peu, qui s'appelle Nastia Golubeva Carax, c'est la fille de Léos Carax, qui est évidemment un nom très connu dans l'univers du cinéma. Voilà, eh bien écoutez, notre émission Restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous dans ce studio. Merci à Aliénor de Pompignan qui est restée.
Merci.
Voilà, vous reviendrez. Merci Franck, merci Franck Herriot, merci Jacques Gachet, Damien Chalamel. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux toutes petites heures dans votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie reste, ne l'oubliez pas, un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie et aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 27 mars, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie, avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.